pense qu'on peut fonctionner en deux temps. D'abord, des réactions par rapport au propos de Claudine en fin de matinée, parce que j'ai coupé court à toute discussion en proposant d'aller déjeuner tout de suite. Et certainement que ça suscitait des questions. Et puis ensuite, il y avait ce petit temps de synthèse et de bilan. Refaire ce qu'on a fait une fois dans la semaine pour ceux qui étaient là sur le module 1, autour de, voilà, quels sont les... Comment tu formulais ça, Claudine? Quelques principes pour... Quelques conseils, principes, maximes pour conduire une action de formation dans le domaine de l'écriture. Donc, d'abord les questions.
C'est quand même à d'autres recherches. J'ai fait référence à une de Boisdieu sur l'apprentissage de la lecture avec l'école des albums, où là, en fait, ils analysent l'écart qu'il peut y avoir à la culture en danger sur une même méthode de lecture entre des enseignants experts, c'est-à-dire, qui découvrent une nouvelle méthode, et des enseignants débutants. Et de ce que j'en avais de prendre, c'était aussi pour essayer de mettre en évidence des gestes professionnels qui pourrait être l'objet ensuite d'un travail en termes de formation. Est-ce que c'est dans la même optique?
Alors oui, mais avec cette question, enfin, il y a deux questions à mon avis, c'est-à-dire est-ce que tout peut s'expliquer? C'est-à-dire est-ce que, enfin, ou se dire de façon déclarative, ou est-ce qu'il y a des choses qui se construisent autrement que par un savoir déclaratif? Et l'autre question, c'est à quelles conditions des résultats de recherche peuvent être transposés en contenu de formation, et ça demande aussi un travail. Donc ça, c'est un peu nous sur ce travail-là qu'on est, c'est-à-dire comment monter des modules de formation et aussi en évaluer les effets de façon la plus objective et précise possible. Mais alors, la recherche, le travail sur les albums, là, dont tu parles, c'est...
C'est une recherche qui est en cours, hein, à partir d'un manuel de lecture qui est à l'école des albums. Donc il y a un nouveau manuel, hein, et donc ils ont placé des enseignants experts, des experts, des IMF, etc., qui utilisaient d'autres méthodes jusque-là, et à qui ils ont proposé de prendre ce manuel et de le découvrir et de le suivre. Et ils ont proposé le même travail à des PE sortants, et ils essayent d'analyser les écarts ensuite de l'effet maître et de l'expérience professionnelle quant à l'utilisation d'un même support.
Gersand, est-ce que tu peux faire passer le micro?
Par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu as, de ce que tu nous as présenté ce matin, qu'est-ce qui te paraissait intéressant à transposer en formation?
Non, enfin là, on n'en est pas là, hein. C'était l'observation. Bon, moi après j'ai des convictions, c'est-à-dire je pense que le fait de mettre en place des ateliers d'écriture, même si c'est sur une forme, sur un temps limité, est nécessaire pour modifier des représentations et des conceptions. Bon, le fait de effectivement de faire réagir à des copies d'élèves, mais là je suis en train de faire. De répondre à la suite. Donc je vais arrêter. Mais non, en tout cas, on n'a pas. Pour l'instant, on a surtout regardé les pratiques de terrain, observé, sans forcément avoir tous les éléments sur ce qu'a été la formation de cette PE ou PLC. Enfin, si, on peut le reconstruire, parce que c'était des gens qui étaient à l'UFM de Toulouse, donc ça peut se reconstruire. Mais en revanche, pour l'instant, on a surtout observer des modules de formation enregistrés, on fait ce travail-là aussi sur le lexique, et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de le mettre en connexion avec des pratiques de classe, quoi. Pour ce module X qu'on a conduit, les pratiques de classe, il y a une collègue, Véronique Paolacci, qui fait une observation aussi assez longitudinale d'un débutant qu'elle a enregistré dans des séances chaque fois sur le même objet d'enseignement, la phrase, pendant sa première année, pendant sa deuxième année, sa troisième, je crois qu'elle en est à la quatrième. Donc on essaie aussi de se constituer des corpus un peu longitudinaux pour voir aussi comment ça bouge, mais là on n'a pas fait un travail vraiment précis sur quel module, pourquoi faire, enfin avec quels effets.
Oui, justement, ça serait intéressant, parce qu'avant, moi, ce que j'ai pu observer, c'est par rapport aux zones d'incertitude. C'est-à-dire que quand ils sortent, les PE, même s'il y a eu des choses en formation, ils ont tellement de questions à résoudre, on va dire ça comme ça, que ils vont plonger loin dans leurs souvenirs, l'enfant, pour faire court dans la pratique. Et qu'au bout de 3 ou 4 ans, un certain nombre d'entre eux se disent « Ah ben, ce qu'on m'a dit à l'UFM, ça peut nous servir. » Et ils vont regarder un certain nombre de choses et on voit que les pratiques, elles peuvent bouger. Mais on ne voit pas forcément les effets la première année.
Oui, et en deuxième année, en PE2, il y a une telle force de la pression de l'évaluation qu'on ne voit pas réellement non plus ce qu'ils vont faire après la première année où ils sont en vraie grandeur, parce que là, ils ont des attentes par rapport, on leur demande des travaux pour évaluer les modules, on leur demande, ils savent qu'ils vont être visités, donc du coup, leur pratique, elle est aussi guidée parce qu'ils pensent que le centre de formation attend d'eux. Et je pense qu'en PET1 ou en PET2, on le voit davantage. Et là, c'est vrai qu'aussi, on a filmé des séances consécutives, on s'aperçoit que le deuxième jour, c'est plus proche sans doute du fonctionnement normal que le premier jour, pour diverses raisons, parce qu'on est moins angoissé par la caméra, mais peut-être aussi parce qu'on relâche un peu plus par rapport à ce qu'on fait vraiment d'habitude. Mais la question du temps est intéressante. On l'avait vu ça aussi pour les évaluations des méthodes de lecture, où on pouvait avoir des effets à court terme qui étaient contradictoires avec des effets à moyen ou à long terme. Et là, on pourrait se dire aussi, une formation, finalement, il ne faut pas l'évaluer que par les deux premières années d'enseignement.
Ouais. Revenir sur les temps chauds de prescription secondaire dont vous avez parlé, est-ce que vous auriez déjà, ou est-ce que vous pensez analyser l'effet de cohérence de ces pressions, de ces prescriptions, là, à savoir, pour être précis, si l'IEN, le conseiller pédagogique, et l'UFM et les IMF ont tous un petit peu les mêmes rapports, les mêmes cas théoriques grosso modo, et sont tous un petit peu en accompagnement sur un même mode. Est-ce que ça a une incidence ou pas ?
Ça, on l'a pas travaillé. Pour l'instant, ce qu'on a regardé, c'est sur un même enregistrement vidéo, donc c'est Bruno Fondeville et Véronique Paolacci qui font ce travail, qui est un enregistrement, alors justement assez discutable, parce que c'est une activité ritualisée d'orthographe, de type phrase du jour, conduite par un débutant, de voir quels discours de formation produisent des acteurs divers, donc des formateurs d'IUFM permanents, profs de français, mais qui sont sur des sites différents. Alors on travaille en équipe, mais il y a quand même des nuances, et puis des équipes entières de maîtres formateurs de sites différents. En gros, ce qui apparaît, c'est que les maîtres formateurs sont très attachés à la gestion de classe et beaucoup moins au contenu précis concerné par la séance. Enfin, c'est ce qui apparaît un peu comme régularité. Et les profs d'IUFM sont extrêmement discordants, les uns trouvant l'activité positive, d'autres pas, voilà, et montrant des choses différentes. Bon, c'est pas forcément étonnant par rapport à des intuitions qu'on peut avoir. Alors, en revanche, les effets de cohérence, moi je pense que même dans un monde idéal où toutes les prescriptions secondaires sont convergentes, on va dire, il n'empêche que tel PET1 ou 2 en difficulté va se réfugier vers des valeurs anciennes et sûres. Et donc, je pense que même si la prescription est très convergente, ces résistances-là peuvent exister. Alors bien sûr, s'il y a contradiction, on peut se réfugier derrière le fait de « mettez-vous d'accord avant de me donner un conseil pour pas bouger ». Mais je pense que même si c'est cohérent, les résistances et les tensions restent. Enfin, j'ai pas de résultats précis à donner.
Je sais pas, moi, il me semble que ce que tu décris, c'est quelque chose quand même, c'est une distribution qui est un peu théorique. C'est-à-dire que les tensions, il y a trois pôles, le pôle des prescriptions officielles, le pôle de la formation et de la recherche, et puis le pôle du poids de l'histoire. Pendant la période, on va dire, autour des années 2000, il y avait en gros convergence entre les prescriptions ministérielles et la recherche, puisqu'il y avait quand même les instructions de 2002 ont été largement nourries par le travail des chercheurs. Mmh. On est passé vers une période où il y avait probablement très très peu de tensions. Alors après, il y en a probablement en termes de posture, de regard, probablement que les profs du FM sont peut-être souvent plus attentifs à des questions de contenu et les conseillers pédagogiques plus attentifs à des questions de posture pédagogique ou d'agir professionnel, je ne sais pas trop quoi, globalement disons. Mais en termes de contenu didactique, à mon avis, il ne devait pas y avoir de gros décalage à ce moment-là. Par contre, le poids de l'histoire de la discipline, le poids de la formation, enfin de la formation, le poids des souvenirs d'enfants, des souvenirs scolaires, il a toujours été là.
Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que par exemple, les programmes 2002, du point de vue de la lecture, pouvaient entrer en, disons, en, je trouve pas le mot, hein, enfin, il pouvait y avoir des grincements avec des doxas locales de formateurs, voilà, oui, pas en accord. Voilà, donc, ouais, je pense que oui. Là, effectivement, c'est aggravé par le fait que ces programmes qui ont été imposés dans des conditions, enfin pas dans les conditions habituelles de négociation avec les catégories professionnelles, ni de travail d'élaboration avec des experts, évidemment entraîne des grincements supplémentaires. Mais je crois que, c'est Guagou aussi qui avait regardé comment autour de 2002, suivant les lieux de formation et dans son propre UFM d'ailleurs. Il pouvait y avoir des discordances fortes, y compris avec les prescriptions institutionnelles, liées à des doxas, enfin, on peut appeler ça comme ça, des doxas de culture professionnelle d'un corps de formateurs à un endroit donné, du fait d'autres influences.
Mais c'est pour ça que l'histoire des trois pôles, à la fois, elle permet de classer, et en même temps, c'est soit plus simple, soit plus compliqué.
Oui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué.
C'est complexe aussi, parce qu'on le voit bien avec les programmes de 2002, les documents d'accompagnement sur l'ORL sont jamais sortis.
On peut mettre en avant l'expérience.
Bien sûr.
Oui, oui. Moi, quand j'ai parlé des prescriptions secondaires, j'ai parlé de la culture professionnelle, de la culture d'école. Hein. Un collègue à Toulouse, pas du tout d'un point de vue didactique, mais a travaillé sur le collectif, enfin, l'équipe d'école, ou ce qui se dit en salle des profs, ou ce qui se dit en salle des maîtres, ou alors bien sûr ce que je te dis moi, qui est une classe depuis 10 ans, où tu verras, tu en reviendras, ou éventuellement le directeur d'école, si je suis en stage filé, évidemment, a aussi une influence. Alors je pense que le directeur d'école, si je suis en stage filé, pas trop, parce qu'ils sont plus sous la pression de la prescription secondaire du centre de formation, parce que c'est là que ça va se passer du point de vue de l'évaluation. Mais par contre, dans la première école, alors on le voit très bien avec les listes complémentaires, hein. Enfin, les listes complémentaires, moi, je sais, une année, j'avais un groupe, c'était quasiment des listes complémentaires, tous, ils ne disaient jamais rien. Un jour, je mange avec certains d'entre eux, mais j'ai dit, mais enfin, quand je vous demande de vous référer, ils me disent, vous vous rendez pas compte. Alors, ils ont réalisé que pour passer le concours, ils avaient appris certaines choses qu'il fallait dire, mais après, quand ils étaient allés en poste sur le terrain, c'était autre chose qu'ils se disaient, et là, ils revenaient en formation, et c'était à nouveau le premier discours, et donc, ils mesuraient tout ce qui s'était passé l'année d'avant, où ils avaient survécu, et où vous avez pris des habitudes et des routines professionnelles, et ils disaient, mais vous vous rendez pas compte combien on a mauvaise conscience de ce qu'on a fait, enfin, ceux avec qui j'avais discuté, c'était des gens qui étaient bien, quoi. Mais donc là, j'avais mesuré à quel point ils avaient appris un discours pour passer le concours, en gros, en y croyant aussi. Hein, enfin, et puis après, ils avaient fait quelque chose de tellement différent qu'ils voyaient pas les liens entre les deux. Et du coup, ils revenaient au centre de formation et on leur redonnait. Et là, je pense que là, ils savaient plus trop si. Et d'ailleurs, on le voit. Enfin, souvent, c'est ces stagiaires-là qui posent le plus de difficultés parce qu'ils sont un peu fermés à ce qui peut se passer par rapport à la formation. Qu'ils ont déjà des habitudes professionnelles.
Non, moi, j'avais juste une remarque sur Harris Burdick en quatrième.
Non, en seconde.
En seconde.
quatrième aussi.
Oui, mais ça ne change pas grand-chose à ce que je voulais dire. Je pense qu'effectivement, c'est de l'ordre de la construction d'une culture commune minimale. Et ça, tu as raison de dire que ça devrait avoir des conséquences en termes de progression, de construction de corpus, etc. Mais ça traduit aussi, je pense, le manque de matériel côté professeur de lycée et collège. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une importation côté grand du matériel des petits, parce qu'il n'y a pas grand-chose.
D'ailleurs, ouais. Personne n'a fait la mousse. Ah,
oui, mais moi je pense que...
Le ministère de Harris Burdick, ça vient des ateliers GFEN,
très très ancien où on disait tout le monde est capable d'écrire. Donc Catherine Taubron, elle a réédité.
Tout à fait, bien après, bien après.
C'est-à-dire ça date des années. C'est très très ancien.
Les mystères d'Aris Burdick, ça, ça c'est pas si vieux que ça.
Ah, ça, plus de 20 ans.
Ah, c'est quand même pas l'apanage du premier degré.
Non,
oui, non, mais je dis c'est une appropriation par le second degré d'un matériel qui avait été. Ouais.
Non, mais bon, enfin, le fait que l'École des Lettres publie un numéro est signe de cette culture professionnelle commune.
Ouais. Ça vient des marges. Ça vient des marges à tous les écritures.
Oui. Moi, je ne me souviens pas d'atelier du GFN qui soit fondé, les mystères d'Aris Burdick, je ne sais pas les dates. Si
c'était, on proposait les images, on faisait, et après tout le monde écrivait, donc tout le monde était capable d'avoir une photo et un texte fantastique. Si, c'était un atelier d'écriture. Des années 70, hein.
Moi, j'ai été formée au GFN dans ces années-là par des ateliers d'écriture qui étaient très fondés sur la lettre et l'inconscient, mais pas, enfin, pas particulièrement Aris Burdick. Ah, mais à Lille, c'est en avance.
Proposé par les MAPEN et par les gens des GFN.
Oui,
c'était collège.
Non, bon, pardon pour Aris Burdick.
Moi, j'avais encore une question. Est-ce que, par rapport à votre corpus d'étudiants que vous analysez, aussi bien PE que PLC, est-ce que vous avez regardé aussi la trajectoire scolaire, on va dire, en tant qu'élève de ces étudiants?
Non, plus la trajectoire universitaire que scolaire, c'est vrai.
Parce que des fois,
ah oui.
Ça m'arrive de leur dire, mais pour vous, ça a bien fonctionné.
Oui, mais ceci dit, il y en a pour qui aussi ça a moins bien fonctionné.
Voilà,
hein.
Voilà, non, mais c'est par rapport, pour regarder par rapport à ça, par rapport à l'utilisation des pratiques.
Moi, je pense notamment à un garçon en reconversion professionnelle qui avait fait la licence pluridisciplinaire à UT3 et qui témoignait d'un passé scolaire difficile.
Voilà.